ce matin avec Alexandra Ben Saïd, un grand entretien qui poursuit la série de débats engagés ici même autour des questions qui agitent la société française à quelques mois de l'élection présidentielle. On parle ce matin du bien-être animal. Comment mieux traiter les animaux sauvages, de compagnie et surtout d'élevage, ceux qui seront au menu de vos réveillons et dont les conditions de vie et d'abattage sont régulièrement dénoncées. Comment sortir du paradoxe français? 85% d'entre vous se disent favorables à l'interdiction de l'élevage intensif, sondage IFOP en janvier dernier, mais dans le même temps, 3 millions d'animaux, 3 millions sont abattus dans le pays chaque jour, en partie pour fournir les 86 kilos de viande que chaque Français consomme en moyenne chaque année. Pour débattre et répondre à vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter, deux invités. D'abord Florence Burga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'école normale supérieure. Votre ouvrage qui fait référence sur ce sujet, l'humanité carnivore, en 2017, vous êtes ce qu'on appelle une abolitionniste. Vous nous direz de quoi il s'agit. Avec nous également Louis Schetzer, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît comme grand patron à la tête de Renault, un peu moins comme président de la Fondation du droit animal depuis 2012. Vous avez publié en 2020, l'an dernier, « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» Louis Schetzer, vous êtes le symbole finalement de cette prise de conscience qui est celle de nombreux Français. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous engager en faveur du bien-être animal ?
Bon, vous savez, dans la vie, on a des convictions. Quelquefois, on a l'occasion de les mettre en œuvre. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de mettre en œuvre mes convictions. Et là, sur ce sujet, eh bien, j'ai la capacité d'agir à la LFDA, au comité d'éthique de l'ordre des vétérinaires, de façon à faire progresser la condition animale en France et en Europe.
Mais vous avez changé dans votre réflexion ?
Non. Vous savez, je suis passé d'une situation où j'avais une opinion, mais je n'en tirais pas de conséquences, à une situation où je pensais qu'il fallait agir en lien avec mon opinion pour faire progresser les choses.
Florence Burga, 40% des Français se disent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils ont nettement réduit leur consommation de viande. Une loi sur le bien-être animal a été votée le mois dernier. À partir du 1er janvier prochain, le broyage des poussins, la castration des porcelets seront interdits en France. Est-ce que les choses changent ?
Alors oui, dans la mesure où vous évoquez ces nouvelles dispositions, on peut dire qu'il y a une prise de conscience dans le monde politique et dans la société française. Et je pense que pour cette cause, comme pour d'autres, ce sont les comportements qui changent les derniers. Et que les idées et nos façons de parler, de penser, sont toujours un petit peu en avance sur nos comportements.
Donc c'est la clé du paradoxe que j'évoquais en introduction ?
Je pense que c'est une des clés de ce paradoxe, oui.
On a une loi sur la condition animale en novembre dernier, Louis Schetzer. Est-ce que cette loi apporte des améliorations notables et est-ce qu'elle va assez loin ?
Bon, le fait qu'on ait une loi votée par la quasi-totalité des parlementaires en accord pour améliorer la condition animale est en soi un fait nouveau. Quand on a changé le code civil, ça avait été très très difficile.
En 2015 ?
En 2015. Et ça c'est positif. Cette loi aborde les animaux de compagnie et les animaux sauvages captifs. C'est deux sujets importants, mais c'est pas les sujets les plus difficiles qui sont l'élevage. La plus grande masse des mammifères aujourd'hui dans le monde sont des animaux d'élevage et le sujet de la faune sauvage, des animaux en liberté.
Vous pensez, vous dites qu'il y a un sujet sur la chasse et ce gouvernement n'a pas été assez loin parce qu'il a subi la pression des lobbies.
Je pense que ce gouvernement fait partie d'une génération, si je puis dire, où la compréhension du sujet animal n'est pas encore acquise.
Et oui, Florence Burga, le poids des lobbies, vous le voyez, vous l'avez vu, vous le...
Non. Moi, je ne suis pas la mieux placée pour parler du poids des lobbies. Je renverrai au livre de l'économiste Romain Espinoza qui a tout un chapitre économie de la condition animale. Il a tout un chapitre très documenté sur le poids du lobby agricole et sur sa présence, son omniprésence dans les ministères et l'influence sur, par exemple, le programme Nutrition Santé. Je voulais juste ajouter un tout petit mot pour aller dans le sens du paradoxe dont vous parliez. En 2015, donc, il a été très difficile de faire introduire dans le code civil une définition intrinsèque des animaux, c'est-à-dire à partir de ce qu'ils sont. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et dans le même temps, le législateur affirme explicitement à la ligne suivante, il reste soumis au régime des biens, le bien ou la chose étant la même chose en droit, c'est-à-dire la possibilité d'user, d'abuser et de détruire la chose. Donc voilà le grand paradoxe de la législation qui porte sur les animaux, c'est-à-dire reconnaître des qualités qui moralement obligent, pour toute une tradition de pensée, le fait d'être sensible, et en même temps de dire nous continuerons à les traiter comme s'ils étaient des choses. Voilà un gros point de blocage.
Alors, quel est le problème principal aujourd'hui, Louis Schweitzer ? Est-ce que c'est la quantité de viande que nous consommons ou bien est-ce que ce sont ces conditions de production ?
Pour moi, les deux sont un peu liés. Mmh. Bien sûr, plus les gens consomment de viande et plus on va vers une industrialisation de la production de ça, parce que l'industrialisation, c'est quoi ? C'est le maximum de production avec le minimum d'argent. Et donc, ça incite à des conditions de production. On parle beaucoup des conditions d'abattage, mais le vrai problème des animaux d'élevage, c'est moins l'abattage que les conditions de vie. Je veux dire, au fond, nous mourons tous, tous les animaux meurent, et les conditions d'abattage qu'il faut améliorer. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une fin de vie qui n'est pas plus douloureuse que l'autre. En revanche, les conditions de vie des animaux d'élevage, quand vous les voyez, par exemple, des poulets tellement tassés qu'ils se battent entre eux, qu'ils s'arrachent leurs plumes, quand vous voyez des cochons, pourquoi est-ce qu'on coupait la queue des cochons ? Parce que les cochons sont tellement tassés entre eux, ils ont des conditions de vie si difficiles qu'ils en sont à faire une forme de cannibalisme, c'est-à-dire à se mordre la queue et se mordre les oreilles. Et donc, c'est des conditions de vie qui sont insupportables, encore beaucoup plus que les conditions de mort.
Et vous pensez qu'on peut produire de la viande différemment, autrement, aujourd'hui, en nourrissant la population ?
Bien sûr, bien sûr. Je suis frappé, on a engagé, à l'initiative de la LFDA, un processus d'étiquetage du bien-être animal. On a commencé par les poulets. Et pourquoi les poulets ? Parce que les poulets ont une vie relativement simple, et parce que on sait qu'un poulet fermier, c'est-à-dire un poulet qui a eu accès à un parcours arboré, qui n'a pas été tassé, qui n'a pas été transporté pendant des heures. Bref, un poulet qui a eu des conditions de vie correctes est en plus un meilleur produit. Et donc, il a été plus facile de convaincre des éleveurs qui ne sont pas des gens qui font fortune. Il faut avoir conscience que dans les lobbies, au fond, les éleveurs, ils défendent un gagne-pain pour eux. Donc, on a pu les convaincre que c'était aussi leur intérêt de donner de meilleures conditions de vie aux animaux de ferme.
Florence Burga, en écoutant Louis Schweitzer, vous êtes d'accord en améliorer la condition animale, ça peut être aussi continuer à manger de la viande, mais améliorer les conditions d'élevage. Et finalement, la question de l'abattage, tout le monde meurt un jour, dit en substance Louis Schweitzer.
Alors là, c'est vrai que je marquerai mon désaccord sur plusieurs points. Premièrement, les poulets fermiers biologiques vivent entre 83 et 93 jours. Et le poulet d'élevage intensif vit 40 jours.
Même 30.
Donc, on peut dire qu'ils n'ont pas du tout de vie et que, certes, il vaut mieux qu'ils passent ces quelques semaines en plein air qu'enfermés. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais enfin, il faut bien voir un problème de disproportion entre le plaisir, le pur plaisir que nous avons à manger un poulet rôti et puis ce qu'il en coûte au poulet. C'est-à-dire de n'avoir... à peine commence-t-il à avoir une vie qu'il est abattu. Alors, dire que nous mourrons tous un jour, bien sûr, mais à qui peut-on souhaiter d'être abattu au moment où il commence son existence ? D'autre part, il me semble que derrière ces labels, il faudrait des contrôles indépendants constants. Nous avons vu, nous avons appris par l'avant-dernière vidéo de l'association L214 que le label préférence de chez Herta correspondait en réalité à des traitements épouvantables. Donc, bien sûr que...
Donc, il ne faut plus manger de viande.
Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, tout le monde en a bien conscience.
Mais c'est votre conviction profonde.
C'est ma conviction profonde et peut-être j'éterrai tout à l'heure ce point de vue.
Louis Schweitzer.
Oui, non, il faut distinguer des revendications commerciales, marketing d'entreprises qui n'offrent pas de garantie en elles-mêmes. Un système d'étiquetage. Un système d'étiquetage, c'est un système où des contrôleurs indépendants contrôlent effectivement, régulièrement, avec des surcontrôles, les conditions de vie, de naissance, de vie et de mort des animaux, et que ces critères le bien-être sont basés sur la science et sur l'expertise. Je reprends l'exemple de mes poulets. Il y a 230 critères dans l'étiquetage bien-être animal des poulets qui permettent de suivre la vie du poulet de la naissance à la mort et de contrôler. Par exemple, la vidéo en abattoir est absolument indispensable pour avoir les meilleures notes.
Louis Schetzer, il y a une dimension économique dans ce que vous dites, et vous avez été le patron de Renault, ça évidemment, vous la connaissez. Il y a une dimension, quand on dit il va falloir améliorer les conditions pour les animaux, ça veut dire beaucoup d'investissements pour les agriculteurs, ça veut aussi dire pour le consommateur que la viande elle va être plus chère.
Oui, mais il faut avoir conscience que même si on n'est pas végane ou végétarien, dans nos pays riches, pour des raisons environnementale et pas seulement morale, il va falloir réduire la consommation de viande. En revanche, dans les pays moins riches, il y a une tendance constante à l'accroissement de la consommation de viande parce que dans ces pays, disons, une alimentation équilibrée, contrairement à ce qui est le cas dans un pays évolué, implique une consommation de produits animaux, de la viande, du lait, des œufs.
Mais ça veut dire que dans ce modèle, Louis Schweitzer, tout le monde ne peut pas se payer de la viande?
Entendons-nous, tout le monde ne peut pas se payer peut-être de la viande deux fois par jour. D'ailleurs, un des critères de la lutte contre la pauvreté, c'est que les personnes pauvres ne peuvent pas, pour des raisons financières, manger de la viande deux fois par semaine. Mais, je le redis, oui, il s'agit de manger moins de viande en tout cas, et de la viande de meilleure qualité.
Florence Burga, diminuer notre consommation de viande, jusqu'où ? La question de la santé est importante.
Alors, avant, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que convertir l'élevage industriel qui est industrialisé à 96% en France, ça dépend des plus ou moins certaines espèces, ça veut dire mettre les animaux dehors et ça veut dire avoir énormément de place. Or, nous n'avons plus de place. Il reste les 4%, les animaux sauvages représentent uniquement 4% de la totalité des mammifères. Donc il faudra mobiliser énormément de terres pour
donc
ça.
Ce que dit Louis Schweitzer, c'est pas possible. Plus de mètres carrés par animaux, ça marche pas.
C'est possible à condition de réduire drastiquement la consommation. Ça, il faut en avoir conscience. On ne peut pas à la fois mettre les animaux dehors et manger de la viande deux ou trois fois par jour. Ce qui est de la folie d'ailleurs.
Lorsque vous dites, in fine, on arrêtera de manger de la viande, moi j'aimerais vous entendre sur pourquoi est-ce qu'on mange de la viande. Vous n'avez pas l'air de penser que les êtres humains ont besoin de ces protéines animales.
Alors, dans le travail que j'ai fait et que vous avez cité, je me suis posé la question suivante. Pourquoi, au moment où l'humanité n'a jamais été aussi libre que de choisir son régime, puisque nous connaissons la nutrition, que nous savons trouver les protéines végétales, etc., il y a au contraire un accroissement de la consommation de viande. Alors on peut y répondre par tout un ensemble de raisons, historiques, économiques, nutritionnelles, naturelles, etc. Mais il me semble qu'on n'épuise pas la question en explorant toutes ces raisons qui ont leur valeur et qu'il faut se demander pourquoi nous voulons finalement tuer les animaux et les manger. Donc j'en arrive, au bout d'une longue démonstration, à l'idée que peut-être nous mangeons de la viande plus pour tuer les animaux que nous ne tuons les animaux pour manger de la viande. Parce qu'on voit bien qu'il y a une crispation absolument très forte.
Donc pour donner la mort, c'est vraiment ça la motivation.
Mais oui. Pourquoi ne pas vouloir, pourquoi vouloir tant de malheur aux animaux? Parce qu'on ne peut pas dire autre chose quand on voit ces animaux de boucherie, de dire qu'on leur souhaite quand même le pire. En bas âge, ils se font tuer à peine nés. Donc il y a une question là très profonde.
Je vous sens sceptique, Louis Schweitzer. Je vous donne la parole et puis on ira au standard
d'inter. Oui, non, je suis au fond pas convaincu par cette thèse. Je ne vois pas que les gens mangent des animaux pour donner la mort. Ils mangent des animaux pour se nourrir, ce qu'ils font depuis des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Et donc c'est une habitude, c'est une pratique qui a permis le développement de l'humanité à un moment donné. On associe le début de l'alimentation carnée au fait que l'espèce humaine a progressé. Donc, ils le font pour des raisons d'alimentation, ils le font pour des raisons d'habitude, et la prise de conscience actuelle est liée au fait que les gens voient la condition animale et comprennent la condition animale, ce qu'ils ne voyaient pas il y a 50 ou 100 ans de la même façon. Donc, on a une différence là-dessus. Il y a une chose commune et essentielle, c'est que aujourd'hui, l'immense majorité des gens mangent de la viande et qu'il faut que cette action ne se traduise pas par des conditions de vie insupportables pour les animaux. Ça a des coûts, un coût économique et il faut aider les éleveurs à supporter ce coût économique, leur permettre d'investir pour améliorer la condition animale et payer ce qu'ils produisent au prix nécessaire pour que les conditions de vie de ces animaux soient acceptables. C'est ça notre enjeu.
Benjamin est au standard de France Inter. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Vous nous appelez de Saint-Ouen.
Absolument. Je vous appelle parce que j'ai l'impression...
Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Benjamin ?
Oui, je suis là.
Allez-y.
Bien sûr. J'ai l'impression que les gens qui nous parlent n'ont pas conscience que les éleveurs, depuis que l'élevage existe, protègent des centaines d'espèces et de races animales. C'est-à-dire que si on n'était pas en France avec le bœuf de Salers, par exemple, ou la vache charolaise, on serait comme aux Pays-Bas avec une seule race, comme la Primolstein, et point, on n'aurait que de l'élevage ultra-intensif dégueulasse, et rien, et aucune espèce, aucune diversité animale. Et moi, je ne mange plus de viande suite aux vidéos de L214, mais j'apprécie quand je prends le train de voir la diversité animale.
Mais vous ne mangez plus de viande, Benjamin ?
Non, je mange plus de viande, et pas par le goût de donner la mort, juste par respect animal, parce que bon, comme disait François d'Assise, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes animaux.
Merci Benjamin pour cette question, Florence Bourga vous répond.
Alors, on pourrait imaginer que les vaches soient des animaux qui fassent autre chose que de la viande, qui entretiennent les prairies, qui soient des animaux de compagnie, comme le sont les ânes, les chevaux. On peut imaginer ça, des moutons, des chèvres. Pourquoi faut-il qu'il y ait une masse énorme d'animaux ?
Pour un usage paysager, en quelque sorte.
Pourquoi pas ?
Louis Schweitzer.
Oui, non, mais la critique ou l'attaque qu'évoque notre interlocuteur porte sur un élevage industriel de type hollandais qui ont effectivement... Chez eux, ils mangent des animaux de ferme, mais ils exportent des animaux industriels. Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable. On crée des espèces animales qui ne peuvent pas vivre seules.
C'est ça.
Et donc, je crois qu'en défendant un élevage fermier qui permette aux éleveurs de vivre, on répond à la préoccupation de votre interlocuteur.
Une question de Guy sur l'application France Inter, il nous écrit, et il habite dans Lyon. Sur les autoroutes, on voyait passer des camions qui allaient aux abattoirs avec des porcs transportés dans des conditions honteuses. Il faut favoriser, c'est ce que vous dites finalement, les circuits courts pour éviter ces problèmes. Louis Schweitzer.
Absolument. Dans les choses qu'on peut changer très vite. On peut interdire de transporter des animaux pendant 8, 10, 12, 15 heures dans des camions, dans des conditions épouvantables. On peut interdire l'exportation d'animaux vivants par voie maritime ou autre vers d'autres pays d'Europe où les conditions que l'Europe, où les conditions d'abattage sont épouvantables. Donc ça, c'est des règles simples qu'on peut mettre en œuvre maintenant et qui ne mettent en rien en cause la situation des éleveurs.
Nous accueillons Étienne, qui nous accueille du département du Maine-et-Loire et qui est éleveur. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de vos interventions. Oui, moi je voudrais évoquer le grand travail qui est fait depuis une douzaine d'années par le réseau des agricultures paysannes en France et en Europe. Et je rejoins ce qu'a dit Benjamin sur la question de la diversité. Puisque en fait une des grandes réflexions, c'est de définir les objectifs de la mise en élevage. Et cette grande diversité des animaux qu'on souhaite en s'attaquant à la spécialisation, à la segmentation des process, c'est-à-dire en faisant dans nos élevages l'ensemble des actes pour faire grandir, pour faire naître, pour faire grandir, pour faire mourir, nous ramène en fait dans l'objectif de mixité des compétences des animaux. Et réduire la question de l'élevage à la question de la viande, ça me paraît un peu réduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre d'éleveurs travaillent sur la question de la multicompétence des animaux. On fait des œufs, on fait du miel, on fait des fromages. Et la mort arrive. Parce que la naissance arrive, et pour que la naissance vienne ensuite, il faut bien. Ma ferme, c'est une planète. Je ne vais pas laisser indéfiniment croître mon cheptel. Par contre, je les respecte.
Vous avez beaucoup de bêtes, Étienne ?
J'ai une centaine de chèvres, j'ai une quarantaine de bovins. Voilà, c'est une petite ferme de 50 hectares. Néanmoins, ma planète a des contours finis, et donc je fournit de l'alimentation. Donc c'est l'objectif de ma mise en élevage.
Merci.
Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas réduire la question d'abord à la viande uniquement et à la mort, mais en fait ce qui est condamnable
à la diversité
en plus,
c'est
qu'il y a un grand nombre
de la production
de produits animaux qui sont pas destinés à l'alimentation.
Merci Étienne pour ce témoignage. Florence Burga, peut-être une réaction.
Alors oui, mais simplement là on est en train de parler de ce qui pose problème d'un point de vue éthique ou moral, et donc c'est le fait de disposer de la vie et de la mort des animaux. C'est pour ça qu'on parle de ça.
Florence Burga, est-ce que vous regardez les recherches actuelles de la food tech, c'est-à-dire les start-up qui s'occupent de nourriture, et notamment celles qui font de la viande en laboratoire? Est-ce que ça serait une solution acceptable à vos yeux, puisqu'on a compris que vous êtes abolitionniste?
Oui, je pense que c'est une piste intéressante. Je pense que, bien sûr, la piste la plus intéressante, c'est de végétaliser l'alimentation. Il faut savoir qu'au moment où l'agriculture, il y a très longtemps, donc, s'est développée, après la période des chasseurs-cueilleurs, au moment du néolithique, beaucoup de plantes très nutritives ont été abandonnées. Ces cultures ont été abandonnées.
Donc,
Alors, j'ai pas les noms des plantes en tête, mais enfin, on trouve ces recherches chez Lévi-Strauss, chez Jaron Diamond. Bon. Donc, on pourrait rediversifier une alimentation végétale très protéinée. Et cette piste de la viande de synthèse, donc créée à partir de cellules musculaires, me semble une piste intéressante. Comme phase de transition peut-être.
Je vous livre une étude du cabinet Kearney. En 2040, la viande naturelle ne représentera plus que 40% du marché global, 35% pour la viande cellulaire produite en laboratoire et les viandes végétales, si je puis dire, 25%. Est-ce que c'est un mix qui vous paraît envisageable dans moins de 20 ans, hein?
Les prévisions à long terme sont toujours difficiles.
Oui, Schweitzer.
Ce que je sais, c'est que la production industrielle est moralement condamnable et pas nécessaire à l'alimentation humaine. Donc, effectivement, cette piste que vous évoquez est possible, si et seulement si, à mes yeux, on permet, par ailleurs, de préserver en France un élevage de qualité, un élevage fermier. Et avec la concurrence mondiale, il faut le reconnaître, nous recevons des pays du monde, mais aussi d'autres pays européens, des produits carnés qui sont pas chers et mauvais.
Alors, on entend qu'il y a une dimension politique dans ce que vous dites. Est-ce que la classe politique, le personnel politique est à l'écoute de ceci? Est-ce que là, on est en pleine campagne présidentielle? Vous avez signé une tribune, Louis Schweitzer, pour appeler justement les candidats à s'exprimer sur le sujet. Alors, évidemment, il y a la question sanitaire qui occupe les esprits en ce moment, mais est-ce que vous sentez de l'écoute?
Écoutez, je sens une évolution. Le fait qu'il y ait un parti animaliste qui ait 2% des voix, ça a été un traumatisme pour beaucoup de politiques.
Aux élections européennes.
C'est-à-dire qu'il y avait, au fond, une sorte d'indifférence à la condition animale dans le monde politique. C'est en train de changer. On est, à mes yeux, en tout cas en France, au début du changement. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous. La Suisse est plus avancée que nous. Les pays scandinaves sont plus avancés que nous. J'aimerais que la France soit, dans ce domaine, au premier rang, pour des raisons morales et, je dirais, éthiques, oui.
Sur l'action publique, justement, question d'Anne-Catherine qui nous appelle du Gers. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour, je voudrais réagir à ce que vient de dire Monsieur Schweitzer par rapport au bien-être animal et aux mesures que le gouvernement nous impose. Depuis le 6 novembre, nous les paysans bio qui élevons des volailles en plein air, nous sommes obligés de closerer nos animaux pour prévenir les risques de grippe aviaire qui, on peut le constater, actuellement ne se développent que dans les gros élevages closerés fermés. Et donc, comment est-ce qu'on peut se situer par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on peut faire pour défendre nous, les petits producteurs qui maintenons l'élevage en plein air pour le bien-être animal, mais aussi pour la qualité des produits proposés à la vente à nos clients?
Bon, c'est clair que le bien-être animal passe par l'accès à l'air libre et donc qu'il faut protéger, préserver, encourager l'élevage comprenant cet accès. Ça, nous sommes d'accord là-dessus et vous en êtes convaincue, madame. Il y a des mesures d'hygiène, nous sommes tous dans ce studio masqué. Au moment où il y a des épidémies, il y a des mesures de protection. C'est l'affaire des scientifiques, et je n'en suis pas un, de savoir faire ce qui est nécessaire et pas plus.
Il y a la question des élevages alors bio, Anne-Catherine témoigne à l'instant sur France Inter. Il y a aussi toute la filière viande en France, plusieurs centaines de milliers de salariés, pas forcément en bio, hein, c'est aussi de l'industriel. Comment vont vivre ces gens demain? Qu'est-ce qu'on fait de ces emplois? C'est une question essentielle, Louis Schweitzer, Florence Burgard.
Oui, mais d'abord pour répondre à une question simple, un élevage respectueux du bien-être animal exige plus de travail, donc plus de personnes, et apporte aux personnes qui travaillent dans ces élevages des conditions de vie très supérieures à celles d'un élevage industriel. Donc je pense franchement que passer à un élevage respectueux du bien-être animal ne pose aucun problème d'emploi, au contraire.
Florence Burgard.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis tout ça sont des processus de transition. Je pense qu'on ne peut pas toujours invoquer le fait que des activités créent de la main-d'œuvre sans regarder la nature de ces activités. Cet argument ne peut pas être absolument dirimant.
Oui, mais il faut aussi tenir compte de
Bien sûr, mais les choses
des
sont
salariés de cette filière.
Mais bien sûr, mais les choses se font de manière transitoire. Il ne s'agit pas de dire demain on arrête tout.
Non, vous êtes justement, vous êtes abolitionniste, mais vous dites qu'il y aura une période de transit. Vous ne voyez pas comment ça peut être autrement?
Bien sûr, les choses ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, sauf dans les dictatures, et ça n'est pas le cas.
Mais à la fin, il faudra en sortir, et vous dites, on peut imaginer un mensonge. Expliquez-nous.
C'est un peu compliqué hein, d'expliquer ça, parce que je suis partie des travaux qui ont été faits sur ce que les anthropologues, l'anthropologie religieuse appellent le sacrifice. Et on a découvert que dans des régions très différentes et à des époques très différentes, les procédures du sacrifice sanglant intégraient aussi à leur place, comme substitut, mais pas du tout dans un but moral, comme un substitut équivalent des offrandes végétales, donc des sacrifices non sanglants. Et donc, ce qui fonctionne là-dedans, c'est le récit de l'officiant. Et je vais très vite, on peut voir qu'il y a une même structure à l'œuvre dans le marketing, qui finalement nous fait adhérer à un récit qui n'est pas la vérité, exactement comme dans le processus sacrificiel. Et c'est à partir de là que j'ai développé cette idée.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange, à ce débat, à cette réflexion sur le bien-être animal. Florence Burgat et Louis Schweitzer, excellente journée à vous. France Inter.